L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Quand on voyage, on va généralement voir des biens matériels, c'est-à-dire des temples, des églises, des lieux de manière générale. Et pourtant, on sait, mais sans vraiment le savoir, qu'il y a également des biens immatériels. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un anthropologue qui s'appelle Ali Rakib et qui est un expert des biens immatériels de l'humanité. Et c'est un métier très particulier, mais que je trouve passionnant, d'autant plus dans notre société où on est un peu en perte de rite, si on peut dire. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Ali.
Salut Greg.
Est-ce que tu vas bien aujourd'hui?
Super.
Bon, on va parler d'un sujet que les gens connaissent mal, peut-être, j'imagine, qui est de l'anthropologie. Mais on va parler en particulier du patrimoine. Alors vas-y, explique-moi. Du patrimoine, parce que j'ai toujours du mal à le dire, je t'avais déjà expliqué. C'est bizarre, c'est très bloqué chez moi. Du patrimoine
immatériel
de l'humanité.
C'est ça.
Voilà. Alors, c'est quoi d'abord le patrimoine immatériel de l'humanité?
Alors, pour s'en souvenir de manière automatique, il faut penser à ce que ça n'est pas, à savoir le patrimoine bâti. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un patrimoine bâti, la tour Eiffel, la muraille de Chine, les pyramides d'Égypte ou du Guatemala. Ça signifie quelque chose de fort en termes de symbolisme pour les peuples qui en sont les dépositaires. Et c'est tellement ancien et symbolique pour la Terre entière que ça n'appartient plus vraiment au peuple local, mais ça appartient à l'humanité. Et donc l'humanité est chargée de son entretien, de sa sauvegarde. Et du fait, de la même manière, on a du patrimoine immatériel. Ça peut être des langues, des danses, des dialectes, des médecines chamaniques, des contes, des imaginaires, qui font en fait nos traditions, nos us, nos coutumes. À Paris, par exemple, on a la tradition des terrasses dans la rue, qui paraissent tellement mainstream, logique et normal pour nous qu'on ne s'en rend pas compte. Mais de l'autre côté du monde, les anthropologues nous annoncent en fait que ça fait partie de notre patrimoine matériel, que c'est un tiers-lieu de rencontres, de débats, de partage d'opinions politiques, de rencontres amoureuses, etc., qu'on ne voit pas partout dans le monde et qui sont symboliques de Paris. Donc c'est un exemple de patrimoine immatériel.
Hyper intéressant. C'est marrant parce que c'est effectivement, autant on visite des églises, des temples XY, et ça c'est très, très, très clair, ça, on le voit, c'est évident. Autant le patrimoine immatériel, on dit souvent que pour grandir, il faut voyager, mais on n'arrive pas vraiment à mettre un mot là-dessus, et donc le mot c'est patrimoine immatériel.
C'est ça. C'est tout ce qui nourrit en fait l'expérience qui est, on va dire, cloisonnée, qui est illustrée par le bâti, donc des choses qu'on peut voir, mais qui nous permet de ressentir les choses, de sentir des odeurs, d'entendre des sons, des musiques.
Hyper intéressant. Comment on en arrive à aller explorer des patrimoines immatériels? Et après, évidemment, ce qui va être hyper intéressant, c'est de raconter des histoires, parce que les gens adorent les histoires, et moi j'adore les histoires, surtout. Donc comment on en arrive à étudier ça? Et après on verra. Mais d'abord ça.
Alors, il y a des choses qui s'expliquent dans mon cheminement de vie, mais d'abord, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, à savoir des comportements qui étaient miens avant même d'avoir quitté l'âge oedipien. Je me rappelle pas de toute mon enfance, mais je me rappelle clairement, en école primaire, chercher parfois à m'éloigner de mon clan de footballeurs parce que j'en avais juste marre des fois de jouer au ballon et d'aller jouer au papa et à la maman avec des filles, et des fois aller jouer à chat perché, mais des fois être seul. Donc je m'asseyais au sommet des escaliers pour observer les enfants, les observer rire, jouer, pleurer, discuter, et c'était une passion, avant même de savoir que ça s'appelait l'anthropologie et que j'allais en faire mon gagne-pain plus tard. Mais enfin voilà, le fait d'avoir déjà été dans cet amour de l'observation de l'autre me permet de savoir que c'est déjà inné d'une certaine manière. C'est pas acquis, c'est pas par mimétisme d'un papa ou d'une grande sœur qui l'aurait fait avant moi. Mais ensuite, mon expérience de vie, donc franco-marocain, donc marocain né en France et grandi en France, mais qui passait systématiquement mes vacances avec ma famille dans le sud marocain. Donc dernière montagne de l'Atlas et première dune du Sahara, dans un village qui aujourd'hui, en 2022, n'a toujours pas d'électricité, pas de gaz, pas de robinet, pas de route, pas de goudron, et qui doit se débrouiller pour subvenir à ses besoins, marcher pendant une demi-heure pour aller puiser de l'eau, élever ses bêtes, résister à la sécheresse, et tout ça en nourrissant un patrimoine matériel, des danses folkloriques, des façons de s'habiller, des cuisines à l'huile d'argan. Une huile qui n'existe que chez nous et pas ailleurs. Et donc tout ça finalement m'a conduit jusqu'au métier que j'exerce aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu penses, c'est la première question qui me vient, et c'est pas, peut-être pas la plus logique, mais qu'est-ce que tu penses de l'appropriation culturelle? On critique beaucoup ce concept, peut-être que tu peux l'expliquer d'abord, et ensuite me dire ce que t'en penses.
Alors l'appropriation culturelle, en tout cas dans le domaine de la mode où on en parle de plus en plus, c'est le fait de piocher de manière complètement gratuite et souvent irrespectueuse des apparats, des symboles vestimentaires, des signes distinctifs d'une culture dite soumise, dite inférieure, parce que la culture habite dans la pampa mexicaine, parce que telle tribu habite au fin fond de l'Amazonie et vit nue dans la jungle, et du coup on se permet de piocher, c'est le mot que je choisis, des choses qu'on trouve sympa, qu'on trouve sexy, qu'on trouve beau, sans se soucier de la signification. Donc exemple concret, un client a voulu s'inspirer, je vais pas citer de nom, hein, mais s'inspirer d'un motif en forme de spirale d'Indonésie, et pour en faire des sous-vêtements. Donc il n'y voyait aucun inconvénient, il y voyait même une forme de respect, parce qu'on tient compte de l'existence de ces cultures-là, on trouve ça joli et du coup on veut s'en inspirer parce que c'est joli. Et je leur explique que la spirale, c'est ce qu'on appelle une forme piriforme, en forme de poire, ce qu'on appelle le motif Pesley dans le langage textile. Et quand on y a à l'intérieur une forme spirale, ça signifie l'infini, et l'infini symbolise le créateur, donc Dieu. Et je leur dis, imaginez-vous juste l'inverse, des créateurs de mode à l'autre bout du monde qui vont prendre nos symboles à nous, occidentaux, comme par exemple la croix chrétienne, pour les mettre dans des sous-vêtements, dans des chaussettes, enfin des vêtements qui vont pas symboliser le respect qu'on y met. Donc on n'a pas besoin de croire en un symbole religieux pour le respecter. Et ça marche aussi dans les deux sens. Donc ça, c'est déjà un premier exemple d'appropriation culturelle. Et alors aujourd'hui, c'est rarement, on va dire, une agression volontaire. C'est souvent dû